Bonjour à tous, c'est Jérémy. Petit message avant de commencer cet épisode pour vous dire simplement que vous pouvez accéder dès à présent et de façon exceptionnelle au replay de l'événement que j'ai lancé récemment, à savoir le sommet de la productivité. Un événement dans lequel j'ai réuni 7 experts de mon réseau pour vous animer gratuitement un total de 8 conférences sur la productivité. Des conférences sur l'énergie, sur la procrastination, sur également tout ce qui est charge mentale et j'en passe. Donc si jamais vous souhaitez accéder à 8 heures de contenu 100% gratuit sur la productivité, c'est maintenant ou jamais. Car je couperai les accès à ces replays-là, à ces rediffusions-là, le dimanche 28 avril à minuit. Si jamais ça vous intéresse, cliquez simplement sur le tout dernier lien présent en description de chacun de mes épisodes de podcast. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode que vous souhaitez écouter. À très vite. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de SauceKiller. SauceKiller, le podcast dans lequel on voit ensemble comment placer les neurosciences au service de votre surperformance. Avant de commencer le sujet du jour, j'ai un message super important à te communiquer. Ou plutôt à tous vous communiquer. Alors, si je résume ensemble depuis le début du mois, qu'avons-nous vu ? On a commencé par voir que la consommation d'aliments riches en fer est une des clés de la surperformance mentale. Et pourtant, en parallèle, gros problème, la carence en fer touche aujourd'hui plus d'un Français sur trois. Ça, c'est donc plutôt problématique. Mais ce n'est pas tout. On a vu également que la carence en fer est loin d'être la seule carence répandue en France qui nuit à l'efficacité et à la santé de notre cerveau. Et là, je pense notamment à la carence en vitamine D, dont j'ai déjà parlé dans mon podcast, le podcast numéro 49 de mémoire. Je pense également à la carence en zinc ou encore à la carence en magnésium, pour ne citer qu'elle. Donc, ça, c'était pour le podcast d'il y a 2 semaines. Ensuite, dans le podcast suivant, donc le podcast de la semaine dernière, vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions sur le lien entre nutrition et surperformance professionnelle. Et là, je pense notamment aux questions de Séverine, aux questions, ou plutôt à la question de Robin, ou encore à la question de Léa. Et en répondant à toutes vos questions, nous avons vu ensemble, nous avons pu remarquer ensemble à quel point le cerveau, en fait, c'est une machine comme les autres, ni plus ni moins. Et que comme n'importe quelle machine, le cerveau doit être alimenté de la bonne manière pour fonctionner de façon optimale. Voilà tout ce que nous avons vu ensemble jusqu'à présent. Alors, juste après avoir sorti mon dernier podcast, je me suis demandé comment je pouvais vous aider davantage dans cette réflexion-là. Comment je pouvais vous aider davantage à faire fonctionner votre cerveau de façon optimale grâce à votre alimentation. Alors, je me suis un peu creusé la tête et au final, je me suis arrêté sur l'idée de vous préparer un petit guide. Un petit guide rapide, un petit guide surtout gratuit, dans lequel je vous présente 5 aliments indispensables pour permettre à votre cerveau de performer. Et dans lequel je vous présente également un réflexe tout simple, le réflexe PLAF, ou plof, je ne sais pas encore trop le nom que je vais lui donner précisément, car au moment où j'enregistre ce podcast, ce guide n'est pas encore finalisé. Donc, réflexe plaf ou plof, qui vous permettra de vous assurer que chacun de vos repas sont bons pour votre cerveau, bons au niveau des performances professionnelles que vous recherchez vous actuellement. Alors, pour télécharger ce guide, comment faire ? C'est très simple, il y a 3 étapes à respecter. Première étape, tu cliques sur le premier lien présent en description. Deuxième étape, tu me laisses ton email et ton prénom. Et troisième étape, tu reçois directement ton guide dans ta boîte mail. Allez, place maintenant au sujet du jour. Sujet du jour qui reste sur le lien entre nutrition et surperformance professionnelle, car pour rappel, tu le sais parfaitement bien, mais je le répète, c'est la thématique de ce mois de juillet 2020. Donc, qu'avons-nous au programme aujourd'hui ? Je vais commencer par te parler de la compétence clé qui distingue une personne qui réussit sur le plan professionnel d'une personne qui ne réussit pas sur le plan professionnel. Cette réussite ou cette non-réussite se joue à un petit détail près qui est très important. Ensuite, je vais t'expliquer le rôle que tient ton cerveau dans l'expression de cette qualité-là. Tu verras, c'est véritablement passionnant et pourtant, de ça, personne n'en parle. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Juste après ça, je vais t'expliquer comment multiplier jusqu'à par 60 la vitesse de fonctionnement de ton cerveau. Et ça, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît, ça demande uniquement quelques petits ajustements alimentaires. Et enfin, pour terminer, je vais te présenter un début de stratégie pour que tu aies toujours un cerveau au top de sa forme. Voilà tout le programme qui t'attend aujourd'hui. commençons. Pour commencer ce podcast, je vais te poser une petite question, ou plutôt deux petites questions. La première, à quoi tient, selon toi, la réussite professionnelle ? Je te laisse quelques petites secondes pour répondre à cette question. Alors, je pense que c'est bon, je pense que tu as au moins une vague idée à l'esprit. Et je pense même que ta réponse pourrait plus précise est soit axée sur le fait d'avoir un bon salaire, soit sur le fait d'obtenir un statut particulier en entreprise, soit potentiellement sur le fait de créer ta propre entreprise, peut-être, ou soit peut-être sur le fait d'avoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Toutes ces réponses sont super. Peut-être d'ailleurs qu'une autre réponse t'est venue à l'esprit, mais bon, dans tous les cas, je pense qu'elle reste du même acabit. Et si je me trompe, dis-le moi par email tout simplement. Alors ça, c'était pour la première question. Maintenant, place à la deuxième question. Question beaucoup plus importante. Quel est le dénominateur commun entre l'obtention d'un bon salaire, le fait de décrocher une promotion professionnelle, le fait de créer sa propre entreprise, ou encore le fait de trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Ce dénominateur commun, il est simple, c'est ta capacité à prendre les bonnes décisions. À prendre, je dirais même plus, des décisions qui réunissent trois critères. Premier critère, le fait qu'elles soient justes. Deuxième critère, le fait qu'elles soient rapides, que ta prise de décision soit rapide. Et enfin, troisième critère, que tu prennes ce genre de décision-là de façon récurrente. Véritablement, c'est important que tu l'aies à l'esprit, cette capacité à prendre des décisions donc justes, rapides et récurrentes est la clé de n'importe quel succès, qu'il soit professionnel ou personnel. Et pour le vérifier, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Typiquement, par exemple, tu as décidé d'accepter une offre d'emploi plus intéressante et ça t'a permis d'évoluer dans ta carrière professionnelle. C'est un exemple de prise de décision. Sinon, tu as décidé d'être proactif dans ton entreprise et ça t'a permis d'obtenir une augmentation de salaire. C'est également une prise de décision. Autre exemple, tu as décidé de dire non aux heures supplémentaires pour passer plus de temps avec ta famille. C'est également une prise de décision. Sinon, tu as décidé de quitter ton emploi pour créer ta propre entreprise. Malheureusement, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. C'est également une prise de décision. Prise de décision qui a certes des conséquences négatives, mais ça reste une prise de décision. Chaque prise de décision que tu fais peut donc soit être favorable, soit être défavorable. Mais dans tous les cas, c'est toi qui en es à l'origine. C'est toi qui restes maître ou maîtresse de cette prise de décision. Et ça, c'est le plus important. Pourquoi c'est le plus important ? Car à l'inverse, quand on n'a pas cette capacité à prendre des décisions qui sont à la fois, pour rappel, justes, rapides et récurrentes, alors on subit la prise de décision d'autres personnes. Et la conséquence de ça, elle est simple, on n'est plus maître de sa vie. En tout cas, on n'est plus maître de sa vie, façon de parler. Je nuance un peu cette phrase car ça fait très gourou du développement personnel, mais je n'ai pas d'autres tournures qui me viennent à l'esprit. Donc, je disais, si tu ne développes pas cette capacité à prendre des décisions efficacement, tu ne seras plus maître ou maîtresse de ta vie. Tu ne seras plus maître ou maîtresse de ta réussite professionnelle. Et pour t'illustrer ça, je vais tout simplement reprendre les exemples que je t'ai listés précédemment. Premier exemple que je t'avais cité, le changement de poste. Là, cette fois-ci, malheureusement, tu as pris trop de temps pour accepter cette offre d'emploi intéressante et elle te passe sous le nez. Hop, ça c'est une conséquence négative d'une absence de prise de décision ou d'une prise de décision un peu trop longue à survenir. Deuxième exemple, tu as été passif dans ton entreprise, tu n'as rien proposé, rien tenté alors que tu avais plein d'idées pourtant à l'esprit et résultat, tu passes à côté d'une augmentation de salaire. C'est une nouvelle conséquence négative d'une absence de prise de décision. Troisième exemple, tu as accepté tes horaires supplémentaires sans ne rien dire auprès de ton responsable. Et la conséquence est la suivante, tu crées un véritable déséquilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Hop, troisième conséquence d'une absence de prise de décision, conséquence négative pardon. Et enfin, dernier exemple, tu n'as rien tenté pour créer ta propre entreprise. Alors certes, ça t'a évité d'échouer, mais sans avoir pris cette prise de décision-là, tu n'aurais strictement jamais su si tu aurais pu réussir ou non dans cette aventure. Voilà donc les conséquences directes d'une incapacité à prendre des décisions. Donc, en fait, tout ça pour te dire que là où une prise de décision peut aboutir sur des résultats positifs comme négatifs, une absence de prise de décision quant à elle aboutit constamment sur des résultats négatifs. Et le plus drôle dans tout ça, si je puis dire ainsi bien évidemment, je fais rapidement un petit aparté, c'est la dissonance cognitive dont nous faisons tous preuve lorsque nous subissons les conséquences d'une absence de prise de décision. En aucun cas, en fait, dans ces moments-là, on va se dire vraiment consciemment que c'est de notre faute, que c'est notre absence de prise de décision qui est à l'origine de la situation que l'on subit. Mais plutôt, à l'inverse, on se dit qu'on n'a pas eu de chance. On se dit que le sort s'acharne contre nous ou autre excuse qui ne remette en aucun cas, qui ne remette aucunement notre incapacité que nous avons eue à prendre une décision. Par contre, à l'inverse, phénomène encore étrange, quand on récolte les résultats positifs de notre prise de décision, là on clame haut et fort à quel point nous avons bien fait de décider de faire ça ou de faire ça. Et cette dissonance-là porte un nom, il s'agit de l'erreur fondamentale d'attribution. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Et d'ailleurs, histoire de te raconter un peu ma vie personnelle, ce que je viens de te dire fait parfaitement écho à mon fond d'écran d'ordinateur. Fond d'écran que j'ai déjà depuis quelques années et qui est une citation de Stephen Covey qui dit, une fois traduite en français, « Je ne suis pas le produit des circonstances, mais je suis le produit de mes décisions. » Donc, tout ça pour te dire quoi ? Tout ça pour te dire qu'il est important que tu saches prendre des décisions rapides, que tu saches prendre des décisions justes et surtout que tu saches prendre des décisions de façon récurrente. Car, encore une fois, cette capacité-là à prendre des décisions est la clé de la réussite professionnelle. La question qui se pose maintenant, c'est comment prendre les bonnes décisions. Alors, ce que j'ai fait en préparant ce podcast, c'est que je suis allé sur Google et j'ai tapé « comment prendre une décision efficace ». Je suis alors tombé sur des centaines de conseils du genre « ne pas s'embarrasser par exemple d'informations inutiles », prendre le temps de peser le pour et le contre, aller prendre l'air, se fier à son intuition, se vider la tête ou encore le fait de relativiser. Et en parallèle, je suis tombé sur de nombreux outils, sur de nombreuses matrices d'aide à la prise de décision. Super, c'est exactement le genre de résultat auquel je m'attendais. Et ce résultat, plutôt, et ces résultats, tu sais quoi ? Eh bien, ils ne me plaisent pas du tout. Ils ne me plaisent vraiment pas du tout. Pourquoi ils ne me plaisent pas du tout ? Car si tu me suis depuis déjà quelques temps, tu dois le savoir. Toutes ces pseudo-solutions-là permettent uniquement de répondre au comment faire. Et en aucun cas, ou plutôt mais en aucun cas, elles expliquent la base de la base. Et la base de la base, c'est quoi ? C'est le pourquoi. Le pourquoi nous ne parvenons pas à prendre de bonnes décisions. Pourquoi nous ne parvenons pas à prendre des décisions justes, rapides et de façon récurrente. Et la réponse à cette question, elle est simple, car ton cerveau n'en est tout simplement pas capable. Ou plutôt, devrais-je dire, ton cerveau est certainement limité dans sa capacité à prendre des bonnes décisions. Et ça à cause de quoi ? À cause de ton alimentation. Potentiellement, d'autres facteurs rentrent en compte, comme le manque de sommeil, mais ce n'est pas le sujet ici. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, en tout cas aussi étonnant que cela puisse paraître pour des personnes, on va dire, lambda, je dis lambda car toi maintenant tu connais l'importance de l'alimentation, il y a donc bien un lien étroit entre le fait de bien s'alimenter et sa capacité à prendre des décisions rapides, justes et de façon récurrente. Et donc, au final, l'ajout d'outils et de méthodes d'aide à la prise de décision ne doit intervenir, selon moi, qu'après que tu aies doté ton cerveau de la capacité à être efficace en matière de prise de décision. Alors là, nouvelle question. Comment justement permettre à ton cerveau d'avoir cette capacité-là à prendre de bonnes décisions ? Ça va passer par la combinaison de deux critères bien spécifiques. Premier critère, il faut que ton cerveau fonctionne efficacement et rapidement. Car sans ça, comment espérer prendre une décision rapide ? C'est peine perdue, c'est logique. Ensuite, deuxième critère, il faut que ton cerveau ait suffisamment d'énergie, qu'il ait suffisamment de carburant pour être capable de décider efficacement tout au long de la journée. Car, comme tu l'as déjà certainement remarqué, il est beaucoup plus facile de prendre des bonnes décisions en début de journée qu'en fin de journée, car nous sommes beaucoup plus fatigués lorsque la journée se termine. Et pour que tu puisses donc combiner ces deux critères bien spécifiques-là, il va falloir que tu joues sur ton alimentation. Commençons alors par le premier critère, le critère de la rapidité de fonctionnement de ton cerveau. Au niveau du cerveau, comment se joue une prise de décision ? Ça se joue principalement au niveau des neurones. En fait, il faut que tu le saches, toute information que ton cerveau reçoit transitent par tes neurones. Neurones qui sont alors chargés, pour faire très simple, hein, très très simple, de faire le tri dans les informations qu'ils reçoivent, de vérifier quelles informations sont pertinentes et quelles informations ne le sont pas, pour ensuite donner l'ordre à ton corps, soit d'agir, soit de bouger, soit de s'exprimer. Et l'information dans les neurones, comment elle transite, comment elle s'achemine en quelque sorte, eh bien, elle circule de façon électrique. Alors, je te passe les détails, ça n'a pas d'importance ici. Par contre, ce qui est important que tu saches, et je dirais même plus ce qui est important que tu retiennes, c'est qu'il est possible, et ça n'a rien de compliqué en soi, de multiplier par 60 la vitesse de transmission des influx électriques dans ton cerveau. Et tu t'en doutes, des informations qui circulent jusqu'à 60 fois plus vite dans ton cerveau est une aide précieuse et non négligeable pour prendre des décisions de façon juste, rapide et de façon récurrente. Comment parvient-on à ce résultat de 2 x 60 ? On y parvient principalement par une consommation intelligente et réfléchie d'aliments riches en lipides. Alors les lipides, pour faire simple, voire même pour faire très simple, pour globaliser, c'est du gras. Et donc, contre toute attente quasiment, consommer du gras est très bon pour la santé du cerveau. C'est très bon pour son fonctionnement. C'est très bon pour le cerveau même en tant que tel. Et ça, j'en ai parlé un peu plus en détail dans le podcast de la semaine précédente. Et donc, j'insiste encore une fois sur cette importance de consommer du gras au quotidien. Pourquoi je prends le temps d'insister autant que ça là-dessus ? Car pendant des dizaines et des dizaines d'années, le gras a malheureusement été diabolisé par la médecine, par les médias et par toutes les institutions de santé. Ce qui a notamment été diabolisé durant ces dizaines et ces dizaines d'années-là, ça a été ce fameux mauvais cholestérol qui serait très dangereux pour l'organisme alors que ce n'est pas du tout le cas. Et là, ça me rappelle parfaitement le médecin de mon grand-père qui l'a justement alerté sur sur son haut taux de cholestérol, l'interdisant par la suite de consommer toute source de matière grasse. Et ça, désolé, je vais être un peu cru, mais c'est une connerie sans nom. Le gras, comme le cholestérol d'ailleurs, sont essentiels pour le cerveau. Ils sont essentiels pour son développement, pour son fonctionnement et pour sa santé. Encore une fois, je vais me répéter, j'en ai parlé la semaine dernière déjà, mais le cerveau est composé de gras à hauteur de 55% de sa matière maigre. À partir de là, comment peut-on décemment dire que le gras est mauvais pour la santé ? Comment peut-on décemment dire que le cholestérol est mauvais pour la santé ? Ce qui est mauvais pour la santé, c'est uniquement le sucre. Le sucre, ça, c'est mauvais pour la santé. Désolé, encore une fois, je vais être un peu cru, mais le sucre, c'est de la saloperie. Je n'ai pas d'autre mot pour le qualifier. Car le sucre flingue littéralement notre cerveau. Et c'est d'ailleurs pour ça que le plus gros module de ma formation BrainSwood est justement consacré au danger du sucre sur le cerveau et sur l'organisme. Et également aux stratégies pour se sevrer du sucre. Alors BrainSwood, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma formation dédiée aux bonnes habitudes alimentaires à adopter et à développer pour avoir un cerveau surperformant. Donc, retenez juste ici que le sucre, c'est mauvais et que le gras, c'est bon pour la santé. Après, toutes les matières grasses ne le sont pas non plus. Il y a quelques détails à avoir à l'esprit. Et ça, j'en parle dans quelques secondes. Donc, techniquement, justement, pour venir à ça, que vas-tu devoir manger pour accélérer la transmission des messages électriques dans ton cerveau ? Pour faire simple, je vais te donner 4 conseils à respecter. Tu trouveras des conseils supplémentaires, comme tu t'en doutes, dans le petit guide gratuit que je t'ai préparé et dont je t'ai parlé en début de podcast. Alors ces 4 conseils, lesquels sont-elles ? Le premier, c'est de consommer au moins un avocat par semaine. Le deuxième, c'est de consommer une cuillère à soupe d'huile d'olive à chaque repas. Mais attention, pas n'importe quelle huile d'olive, je te conseille uniquement l'huile d'olive vierge extra qui est la meilleure pour ton cerveau. Ensuite, je te conseille de manger au moins 2 poissons gras par semaine. Par poisson gras, j'entends des sardines, du maquereau ou encore du saumon ou de la truite. Et dernier conseil, je te conseille de consommer au moins 20 grammes d'oléagineux par jour. Par oléagineux, j'entends tout ce qui est noisettes, amandes ou encore noix de pécan, noix du Brésil, noix de cajou par exemple. Par contre, attention, consomme ces oléagineux-là de façon non salée et non grillée. Sinon, ça n'aura aucun bénéfice pour toi et même au contraire, ça aura des répercussions négatives sur ton cerveau. Et à l'inverse, il y a des aliments que je vais te demander d'éviter ou du moins de limiter en matière de consommation. Et là, je pense notamment à l'huile de tournesol. Je pense également au fromage, ce qui est très dur à entendre pour un amoureux du fromage comme moi. Et je pense également à tout ce qui est produit animal, issu d'animaux d'élevage intensif. Alors, pourquoi il y a des aliments riches en lipides, on va dire, meilleurs que d'autres ? J'ai déjà répondu à cette question dans mon podcast précédent. Mais en résumé, certains gras sont dits anti-inflammatoires et d'autres sont dits pro-inflammatoires. Et en fait, tout ce qui est pro-inflammatoire nuit à la santé de ton cerveau. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes tous dans une situation dite d'inflammation chronique. Autrement dit, notre corps, constamment, il est en situation d'inflammation. Donc, autant éviter d'ajouter des facteurs aggravants. Et ça, en fait, cette situation d'inflammation chronique, ça a des effets très délétères sur notre cerveau. Et là, je pense notamment aux maladies qu'on appelle des maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson ou encore la maladie d'Alzheimer, qui sont directement causées par ces inflammations-là à répétition. Et je te rassure, il est parfaitement possible de se prémunir de ces maladies-là et de la dégénérescence de notre cerveau grâce à une bonne alimentation. Et je développe d'ailleurs, pendant que j'y pense, un peu plus en détail cette notion de pro-inflammatoire et d'anti-inflammatoire dans mon petit guide que tu peux télécharger, je te le rappelle, grâce au lien présent en description du podcast. Donc ça, c'était pour le premier critère à respecter. Ensuite intervient le critère suivant, le critère de l'énergie. L'énergie comme William. William, l'énergie. Alors si t'as pas la référence, c'est pas grave, peu importe. Donc l'énergie. Il faut savoir pour faire simple que ton niveau d'énergie et donc que le niveau d'énergie de ton cerveau dépend principalement de deux critères. Premier critère, la fluctuation de ton niveau de cortisol. Deuxième critère, la fluctuation de ton niveau d'insuline. Donc premier critère, le niveau de cortisol. Le cortisol, c'est quoi ? Le cortisol est une hormone qui joue plusieurs rôles clés dans ton corps et dont un rôle bien spécifique qui est le fait de nous donner justement de l'énergie. Alors je fais de très gros raccourcis ici pour simplifier un peu mes propos, donc tous les experts en nutrition ou en médecine qui m'écoutent ne venez pas me critiquer. Si je fais ça, c'est uniquement pour rendre l'information plus digeste et pour la rendre plus accessible. Et donc ton niveau de cortisol, il va varier au cours de la journée. Si tu as une vie normale, autrement dit si tu ne travailles pas soit de nuit, soit en horaire posté, alors ton niveau de cortisol va connaître 3 pics par jour. Un pic situé entre 8h du matin et 9h du matin, un pic situé entre 12h et 13h, et enfin un pic situé entre 17h30 et 18h. Autrement dit, c'est à ces moments-là que ton niveau d'énergie va être au plus haut. Et à l'inverse, dans les périodes que l'on va qualifier de creux, autrement dit entre 9h et midi, entre 13h et 17h30, alors là, ton niveau d'énergie sera beaucoup plus bas. Ton niveau d'énergie là, il va décliner. Et ça, j'en parle un peu plus en détail de mémoire dans mon podcast numéro 48 qui s'appelait, je crois, « Le café jamais au réveil ». Je crois que c'est ça. Donc, comment faire justement maintenant pour contrecarrer un peu cette baisse d'énergie due à une fluctuation de ton cortisol ? Il existe plusieurs solutions pour ça. Et la solution la plus simple, celle que tu peux faire dès maintenant, celle que tu peux appliquer dès maintenant, c'est de consommer du café dans tes creux de production de cortisol. Ce qui va permettre à ton cerveau d'être stimulé et ça va lui donner l'illusion d'avoir de l'énergie. Et je parle bien d'illusion d'énergie car ce n'est pas vraiment de l'énergie à proprement parler qu'apporte la caféine. Mais ça va être suffisant en tout cas pour duper ton cerveau et pour avoir un petit coup de fouet intéressant. Après, la caféine, pour nuancer un peu mes propos, présente de nombreuses limites et certains dangers sur ton cerveau, vraiment délétères à long terme. Mais bon, j'ai pas le temps d'aborder tout ça ici et c'est pour ça que j'en ai fait un module spécial dans ma formation Brainsfood. Le seul conseil que j'ai le temps de te donner ici, c'est de ne pas consommer constamment du café. N'en consomme pas tous les jours, mais laisse-toi plusieurs journées par semaine en off. Plusieurs journées dans lesquelles tu ne vas pas consommer un seul millilitre de caféine. Donc ça, c'était pour le premier critère. Maintenant, deuxième critère, le critère de l'insuline. Il faut que tu saches en fait, malheureusement, que tu fatigues constamment ton organisme à chaque fois que tu consommes un aliment riche en glucides. Par exemple, quand tu consommes du pain, quand tu consommes du riz, des pâtes, des pommes de terre, des bonbons, des gâteaux. Voilà, ce sont quelques exemples parmi tant d'autres. Et en fait, à chaque fois que tu vas consommer un aliment riche en glucides, tu vas créer dans ton corps ce qui s'appelle un pic d'insuline. L'insuline étant une hormone dont l'un des buts principaux est justement de gérer le sucre présent dans le sang. Alors, je te parle de sucre, je te parle de glucides, sache que c'est la même chose. Et donc, ce pic d'insuline va te fatiguer et il va nuire à ta capacité à prendre des décisions. Plus précisément, il va nuire à ta capacité à prendre des bonnes décisions. Car lorsque l'insuline va intervenir, ton organisme en fait va se vider en quelque sorte de son énergie. Et ton cerveau, en conséquence, va perdre en capacité de vigilance, en capacité de concentration, en capacité d'attention et en capacité à prendre du recul. Alors l'idée, ici, pour que tu puisses prendre des décisions qui restent justes, rapides et de façon récurrente, elle est simple, c'est que tu limites un maximum l'apparition de ces pics d'insuline et donc que tu limites ta consommation d'aliments riches en glucides. Le souci qui se pose ici, c'est que l'arrêt de toute consommation d'aliments riches en glucides ne s'improvise pas. Ça demande un véritable travail mental d'une part et surtout un travail de changement de paradigme. C'est pourquoi je ne vais pas te recommander ici de te couper de toute source de glucides, bien que ton cerveau, crois-moi, il t'en remercierait. Il t'en remercierait d'ailleurs véritablement. Donc ce que je vais te recommander dans ce podcast, histoire que tu puisses faire un premier pas vers la réduction de tes glucides, c'est de changer tout simplement les aliments riches en glucides que tu consommes au quotidien. Pourquoi faire ce changement est important ? Car simplement toutes les sources de glucides ne se valent pas. Ne se valent pas dans le sens où certaines vont littéralement faire exploser le taux d'insuline dans ton corps et donc créer les effets délétères dont je t'ai parlé juste avant, alors que d'autres sources de glucides ne vont que peu faire monter ton niveau d'insuline. Et là, certes, les effets délétères seront présents, mais de façon beaucoup moins importante. Donc, à partir de maintenant, si tu veux réellement changer les choses, si tu veux réellement doter ton cerveau des meilleures capacités pour lui permettre de surperformer au quotidien et pour prendre des meilleures décisions, je te conseille d'arrêter de consommer par exemple des pâtes, d'arrêter de consommer par exemple des pommes de terre, d'arrêter de consommer du pain blanc, d'arrêter de consommer des biscottes ou encore du pain de mie, et de remplacer tous ces aliments-là par du riz basmati, par des lentilles, par des patates douces, par du quinoa, par du sarrasin ou encore par des châtaignes, des haricots rouges ou encore des haricots blancs. En faisant ça, tu vas réellement parvenir à préserver le niveau d'énergie de ton corps. Et qui dit niveau d'énergie préservé, dit de meilleure prise de décision et donc une meilleure prise en main de ta vie professionnelle. Et un autre avantage de ce changement un peu d'habitude alimentaire là, c'est que ton corps va être en meilleure santé, à la fois sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Gâteau qui compte d'ailleurs parmi les aliments à éviter. Voilà ce que j'avais à te dire dans ce podcast. Comme tu le vois, à nouveau, bien s'alimenter est réellement clé dans la réussite professionnelle et dans la surperformance mentale. Et ce n'est d'ailleurs pas par hasard, ce n'est pas pour rien que toutes les rockstars de l'entrepreneuriat comme Jeff Bezos, comme Richard Branson ou encore comme Bill Gates adoptent des régimes particuliers, des régimes différents de 98% de la population. En fait, ces hommes et ces femmes d'ailleurs aussi, hein, bien évidemment, aux carrières littéralement exceptionnelles, ont appris à mettre leur alimentation à la fois au service de leur réussite professionnelle et à leur capacité à prendre des décisions justes, rapides et de façon récurrente. Et ils ont également appris à mettre leur alimentation au service de leur santé et de la longévité de leur cerveau. Et toi, si tu veux faire pareil, si toi aussi tu es convaincu de l'importance de bien manger pour surperformer, alors je ne peux que t'inviter, une nouvelle fois, à télécharger le guide que je t'ai préparé. Ce guide, il est facile à lire, il est tourné véritablement vers le passage à l'action, et il te donne les clés pour te poser les bonnes questions avant de passer à table. Pour te poser les bonnes questions pour vérifier par toi-même que ton alimentation, que ton assiette est bien adaptée à la performance de ton cerveau. Pour le télécharger, je te rappelle, c'est très simple. Il y a 3 étapes à respecter. Tu vas cliquer sur le premier lien que tu trouveras en description. Après, tu rentres ton email et ton prénom. Tu valides et je te l'envoie de mon côté directement dans ta boîte mail. Voilà ce qui nous amène tranquillement à la fin de ce podcast. Si tu as maintenant la moindre question ou la moindre remarque, sache que tu peux me joindre par email et même par téléphone si tu veux échanger de vive voix. Tu as maintenant effectivement mon numéro de téléphone en signature de chacun de mes emails. Tu peux donc m'appeler, m'envoyer un SMS ou m'écrire sur WhatsApp sans problème, n'hésite pas. Et pour réellement terminer, pour réellement conclure ce podcast, sache que cet épisode est accompagné d'une synthèse écrite et visuelle à laquelle tu as accès si tu es abonné à mes emails privés. Si tu veux y accéder et que tu n'es pas encore abonné à mes emails privés, il te suffit tout simplement de regarder en description du podcast pour trouver un petit lien spécifique pour t'y inscrire. Et enfin, pour terminer, si cet épisode t'a plu et si mon contenu te plaît de façon plus globale, tu peux me soutenir en me laissant un avis et une note sur Apple Podcast. Mon défi, je te rappelle, des 50 avis avant la fin du mois, tient toujours. Donc, si tu as 2 minutes pour m'aider, pour mettre ta petite pierre à l'édifice, sache que je t'en serai reconnaissant. Allez, maintenant, je vais te laisser. Il est temps de te laisser. Il me reste plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !